Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
Bonsoir, c'est à vous, c'est toute l'actualité de ce vendredi 27 janvier pour vous accompagner jusqu'à 20h55 avec l'équipe de la fin de semaine, autrement dit une équipe 100% masculine. Bonsoir, bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir Manette.
Mais ne soyez pas désespérés, je suis ravie de vous avoir, y compris le vendredi, Patrick. Mohamed, votre story ce soir.
Le 1er janvier 2023, certaines gares en Corrèze devaient fermer. Une fédération d'utilisateurs ont proposé un plan pour contrecarrer ces fermetures. Je vous le présente ce soir.
Patrick, votre édito.
Lundi, examen du projet de loi de réforme des retraites en commission des affaires sociales de l'Assemblée. Mardi, nouvelle journée de mobilisation intersyndicale. On rentre dans le dur et on va regarder si la bataille des retraites peut être gagnée ou si elle est déjà perdue par le gouvernement.
On posera la question à Alain Duhamel, éditorialiste, essayiste, notamment sur BFM TV. Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté... votre présence ce soir, ou d'avoir accepté notre invitation. Voilà, les mots vont se remettre. Les mots vont se remettre dans l'ordre dans un tout petit instant. Le Conseil économique, social et environnemental préconise la dépénalisation de la consommation de cannabis. Thierry Baudet, son président, nous explique pourquoi dans un instant. Mathieu, dans le 5 sur 5.
Comme un contraste avec la situation politico-économique du pays, la Fashion Week à Paris, la Fashion Week haute couture, c'était cette semaine. Après la pandémie, premier défilé pour la marque Mugler, mais surtout un an, presque jour pour jour, après la mort du créateur, on y était hier soir.
Pierre, votre clin d'œil ce soir.
Oui, un clin d'œil signé Louis de Funès, qui nous a quittés il y a 40 ans aujourd'hui, et Louis de Funès qui a pensé un temps à jouer Astérix, puis ça s'est pas fait.
Astérix, c'est Guillaume Canet qui l'incarne à partir de mercredi prochain dans une nouvelle adaptation de cette BD culte. Il est notre invité ce soir, entouré de quelques-uns des acteurs qui sont à l'affiche. On ne pouvait pas tous les recevoir, ils sont tellement nombreux, toutes les stars qui y participent. En tout cas, on est heureux de recevoir Vincent Cassel, Jonathan Cohen et Léane Chéa qui entoureront donc Guillaume Canet pour cette spéciale Astérix. Rendez-vous après 20h. Mais tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Le gouvernement, Patrick, est-il en train de perdre la bataille des retraites?
Oui, la question est désormais dans toutes les têtes à la veille du début de la discussion parlementaire et après une semaine désastreuse où le rejet de la réforme s'est intensifié, 72% de Français opposés au projet du gouvernement selon Elab pour BFM TV, soit une hausse de 6 points en une semaine et de 13 points en 15 jours. Pire encore pour l'exécutif, 57% des Français comprendraient que les grévistes bloquent le pays car c'est le seul moyen de faire plier le gouvernement. Autrement dit, un grand désordre de type mouvement de 95 contre la réforme Juppé serait moins impopulaire que le report de l'âge légal à 64 ans. Chiffres et constats qui ne peuvent que galvaniser les opposants de toute nature, politiques et syndicaux, en vue d'un combat sans merci.
Ça veut dire qu'Emmanuel Macron ne pourra pas tenir?
Ça veut dire que la bataille de l'opinion est sinon perdue, du moins très mal engagée, et qu'elle conditionne deux autres batailles déterminantes pour l'issue du projet, face aux responsables de la majorité, aux élus macronistes, gagnés par le doute et l'inquiétude depuis la mobilisation réussie du 19 janvier, puis face au Parlement à partir du 6 février. À partir de là, tout est possible, et vous savez que je n'aime pas beaucoup faire des pronostics. Je vous propose deux raisonnements, deux types d'arguments, deux éditos.
Allons-y pour le premier.
Alors, le projet tel qu'il se présente aujourd'hui est condamné parce qu'il souffre d'un péché originel, l'affirmation qu'il s'agit d'une réforme juste et équitable, quand aujourd'hui les trois quarts des Français la considèrent comme injuste et brutale. Les ministres chargés de batailler sur les plateaux télé ont depuis fait machine arrière. Ils se contentent de dire qu'elle est nécessaire, cette réforme, et que l'effort sera partagé quand ils n'admettent pas, comme Franck Riester, que les femmes seront un peu pénalisés. Ouais. C'est trop tard, le débat s'est installé sur le terrain de la justice, de l'équité. Les Français sont convaincus en majorité que les actifs, les catégories populaires et les femmes sortiront perdants. Et après deux semaines d'explications, on ne voit pas ce qui pourrait infléchir leur jugement. Pression maximale donc sur les députés macronistes, confrontés à la colère de leurs électeurs. Même les retraités, socle électoral d'Emmanuel Macron, et pourtant épargnés par la réforme, sont majoritairement contre. Désormais, je ne crois pas que dans le passé, un gouvernement soit parti au combat pour une réforme aussi lourde avec une majorité aussi fragile.
Deuxième façon de voir, deuxième édito.
Les réformes des retraites sont impopulaires par nature. Elles l'ont toutes été depuis 20 ans parce qu'elles supposent toujours de travailler plus, parce que le système n'est pas fait pour corriger des inégalités de carrière, que les citoyens veulent d'abord des réponses sur leur situation personnelle et que le débat se noie, comme chaque fois, dans l'étude de cas particuliers. Alors c'est vrai, le soutien à la mobilisation reste majoritaire, mais ce n'est pas encore, peut-être, un raz-de-marée. D'après Odoxa pour Le Figaro, chacun ses sondages, ce soutien a même reculé. Regardez, de quelques points en une semaine, 63% contre 66. Bah oui, tous les instituts ne disent pas la même chose. L'opinion commune est encore que la réforme va passer, peut-être avec des concessions. L'opposition, en tant que telle, n'est pas si forte, avec une gauche engluée dans ses querelles de partis et un Rassemblement national qui est pétri de contradictions sur le sujet des retraites. L'inflation, ça c'est les données économiques aussi, la situation sociale, l'inflation reste contenue. Le chômage, chiffre de cette semaine, est au plus bas depuis 12 ans. Les entreprises continuent de recruter, y compris des jeunes et des plus de 50 ans. Dans ces deux catégories, le recul du chômage atteint 9 à 10% sur un an. La bataille peut être longue et rude, mais Emmanuel Macron sait parfaitement que s'il recule sur une réforme dont il a fait un totem, son quinquennat sera terminé.
Patrick Cohen nous propose deux scénarios. Il me semble que vous en avez trois en tête, cher Alain Duhamel, mais avant d'en venir aux scénarios possibles, aux hypothèses à envisager par rapport à l'issue de cette réforme des retraites, voyons sur les choses qui sont sûres. Patrick dit la bataille sera longue et rude. Ça, c'est une certitude. Et quand Patrick dit qu'Emmanuel Macron sait que s'il recule sur cette réforme, son quinquennat sera terminé. Vous êtes d'accord là-dessus? Et qu'est-ce que ça veut dire sur le quinquennat sera terminé?
Ça veut dire qu'il sera à la fois vide de sens, vide de prestige et même vide d'objectifs identifiables. Bon, c'était téméraire de choisir comme principal objectif une réforme des retraites dont on sait qu'elles sont toujours systématiquement rejetées par une forte majorité des gens, évidemment. Mais c'est vrai que c'était son idée. Il en parlait dès son livre publié en 2017. Bon, et il avait essayé de le faire déjà pendant son premier quinquennat. Avec une autre réforme
systémique.
Mais enfin, c'est l'idée qu'il avait en tête. Il pense que c'est absolument nécessaire si on veut préparer l'avenir, etc. Donc, s'il était obligé de le retirer, bah, ça signifierait qu'il a une marge. Bon, il inaugurera les chrysanthèmes un peu plus, parce que c'est la Ve République, il y a la politique étrangère, etc. Mais enfin, il aura perdu, en tout cas sur la scène nationale, oui.
Et sur les deux hypothèses qu'évoquait Patrick, vous aussi, vous dites qu'aujourd'hui, on ne sait pas de quel côté la pièce peut tomber.
Alors, moi, je trouve d'abord, il faut reconnaître, parce qu'autrement, ça serait de mauvaise foi, que jamais gouvernement ne s'est trouvé en position aussi difficile avant de présenter une réforme aussi impopulaire. Bon, ça, c'est un fait. Ce qui commence, là, ça va être très long. On est au début d'un processus qui va durer de toute façon 7 ou 8 semaines.
Jusqu'à fin mars.
C'est constitutionnel.
C'est constitutionnel. Donc, c'est la loi. 26 mars. Hein.
Voilà. Donc, ça fait presque 2 mois. Bon, donc c'est très très long. Alors, je pense qu'il y a 3 hypothèses. La première hypothèse, qui est la plus classique en ce qui concerne les retraites, qui est, au départ, à peu près tout le monde est contre. En général, sauf les retraités. Cette fois-ci, même les retraités réagissent différemment.
Vous l'expliquez, ça ?
Oui, parce que au départ, les retraités étaient favorables. Et on leur a expliqué. Bon, alors, ils ont été très maladroits d'insister sur la justice, qui était absurde. Oui. Mais du coup, les retraités ont écouté les critiques et ils ont été convaincus par les critiques. Bah oui. Bon, mais ça va durer 6 semaines. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il y a 3 hypothèses. La première, qui est la plus classique, qui est le gouvernement finit par faire voter sa réforme. Il y a une très forte mobilisation sociale, très très forte pendant les 3-4 premières semaines, les 3 en général. Et puis ensuite, les Français qui sont contre la réforme, qui sont pour les manifestants, mais les Français à ce moment-là subiront les conséquences de leur vie quotidienne. Alors à la fois, il y a l'inflation qui de toute façon rend les choses compliquées, mais il y aura aussi leur vie quotidienne. Le gaz, l'électricité, se transporter, bouger, travailler, bon. Et dans plusieurs des cas précédents, dans ce cas-là, l'opinion a fini, pas vraiment par basculer, mais par se résigner. Bon. Si c'est comme ça que ça se passe, et si c'est voté, à ce moment-là, ça peut se terminer non pas bien, parce qu'ensuite, il en reste beaucoup d'amertume, de rancœur, et même d'hostilité. Mais ça passe, première hypothèse. Deuxième hypothèse, la loi est votée, mais les manifestations, la mobilisation continue. Là, on est dans la panade, parce qu'on est en pleine crise sociale. Ça ne s'est passé comme ça. La loi votée et
les manifestations.
La seule chose comparable, c'est 68. Et là, la question est de savoir si les salariés du secteur privé et si les jeunes, les étudiants, etc., se sont joints ou ne se sont pas joints. Si c'est uniquement secteur public, ça peut passer. Si c'est comme en 68, secteur privé, ce qui ne s'est même pas passé en 95, s'il y a secteur privé, a fortiori étudiants et lycéens, à ce moment-là,
c'est l'embrasement.
Oui. C'est la crise.
Il y a un précédent, si je peux me permettre, Alain. Oui. Le contrat premier embauche, le SMIC jeune de Villepin. Oui. La loi a été votée, les manifestations ont continué. Chirac a dit finalement, la loi ne sera pas promulguée. Hein.
Oui, non, mais bon. Ça a été ridicule.
Quelques semaines.
Ça a été ridicule. Et Chirac ne s'en est pas remis et Villepin non plus.
Oui, d'accord.
Hein, c'est ce qui a empêché Villepin de se présenter à l'élection présidentielle. Donc, ce n'est pas anodin. Il y a une troisième hypothèse, parce qu'on est en majorité très relative, qui est que la loi ne soit pas votée par le Parlement. Alors ça, c'est imaginable. De toute façon, ça se jouera à peu de voix. Mais compte tenu de la pression de l'opinion, si l'opinion ne bascule pas, c'est pour ça que je dis vraiment ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une histoire de 8 semaines. Si l'opinion ne bascule pas, il se peut que sous la pression de leurs propres électeurs, par exemple, une bonne partie des Républicains refusent de voter, voire que certains de Renaissance, le parti de qui soutient Emmanuel Macron, et des états d'âme aussi. Si c'est ça, automatiquement, si ça n'est pas voté, donc s'il y a une motion de censure sur un 49-3, si c'est ça, de toute façon, le gouvernement est obligé de démissionner. Le renommé, comme ça avait été fait en 62 par Pompidou, ça serait pris pour une provocation. Mettre en place un gouvernement à peu près comparable, ça servirait à rien. Donc, dissolution. Mmh. Et le problème, c'est que dissolution, cette fois-ci, c'est pas du tout comme ça s'est passé dans d'autres cas au bénéfice de la gauche un an ou deux ans après,
c'est tout de suite
Marine Le Pen. Et vraisemblablement, dans ce cas-là, elle n'aurait pas la majorité, mais elle aurait simplement une force accrue. Et il n'y aurait plus de majorité possible du tout. Et pendant un an, il ne pourrait pas y avoir d'autres dissolutions. Et j'insiste sur un point qui prendra de plus en plus d'importance. On est à 18 mois des Jeux Olympiques. Et si on a un gouvernement de transition, un gouvernement ultra-minoritaire, un gouvernement contesté de partout, une assemblée hostile, ça peut être, pour le coup, une affaire, internationale. Ça sera l'image de la France qui risque de s'effondrer littéralement.
Pour aller au bout de votre troisième hypothèse, pour qu'elle soit réalisable, oui, il faudrait une coalition des oppositions, puisque le gouvernement a la possibilité de faire passer ce texte par un 49-3. Il faudrait donc qu'il
y ait une motion de censure
qui soit votée par les principales forces d'opposition, c'est-à-dire
absolument
gauche, RN et droite LR, pour renverser le gouvernement.
C'est ça votre
hypothèse.
Mais tout ça se jouerait, de toute façon, dans un sens ou dans un autre, tout ça peut se jouer à moins de 20 voix, peut-être à moins de 10 voix. Donc, il ne s'agit pas de faire de la tragicomédie, mais il y a vraiment 3 hypothèses différentes. Et qui
sont aussi probables l'une que l'autre.
Oh, pour être tout à fait sincère, d'abord, j'essaye d'être tout à fait sincère en général, je pense que la première hypothèse a quand même plus de chances que les autres, mais ce n'est pas du tout une garantie. Hein. Parce que, vous savez, quand il y a des mouvements sociaux aussi spectaculaires que ceux qui vont avoir lieu, quand il y a des mouvements sociaux de ce genre, il suffit qu'il y ait des incidents, qu'il y ait des violences, qu'il y ait des morts. Et dans ce cas-là, tout peut changer.
La fameuse étincelle. Que pourrait faire le gouvernement pour améliorer, se faire mieux comprendre de l'opinion publique ? Dire que c'est une réforme juste, c'est raté.
Ah bah c'est...
Comment infléchir ce discours ?
C'était impossible même. Ouais. C'était impossible. Il fallait dire que c'est une réforme nécessaire. Et ça se défend tout
tard.
À fait. Mais maintenant, c'est plus suffisant. Donc, il faut dire, on a déjà amélioré certaines choses ou évolué sur certaines choses. Bon, typiquement, un an moins quand même. Hein, on est passé de 65 à 64, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Et deux, tous les parlementaires vont faire assaut de propositions. Il y en aura qui seront totalement inconstitutionnelles, qui n'auront aucune chance, il y en aura beaucoup d'ailleurs, hein, qui vont sauter, mais il y en aura un certain nombre qui seront intéressantes. Mais il faudra tâcher de reprendre 3-4 propositions intéressantes, essayer de bien les présenter, ce qui demanderait un talent qui ne s'est pas exprimé jusqu'à présent. Et puis, penser que, voilà, au bout de 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines, les gens auront assez des grèves et qu'on dira « bon, eh ben, ça passe en France ». Et à ce moment-là, on dira, je vous fais remarquer que la France est quand même parmi les pays européens où l'âge de la retraite est le plus bas et où les retraites proportionnellement sont les plus hautes qu'en Allemagne, par exemple.
Je prolonge votre dernière réflexion. Plus de 7000 amendements ont été déposés en vue du débat à l'Assemblée nationale. La France insoumise en avait prévu des dizaines de milliers. Oui. C'est un recul, Alain Duhamel ?
Elle a changé de tactique, ça, clairement. Et je pense qu'elle a changé de tactique parce que, de son point de vue, ça se passait bien dans l'opinion et sur le terrain. C'est-à-dire quand ils ont eu le sentiment que l'opinion était vraiment contre la réforme et que, d'autre part, la mobilisation... en tout cas dans les défilés. Ça a été moins vrai dans les grèves jusqu'à présent, mais on est au début, donc je ne fais pas de pronostic, mais ils se sont rendus compte que ça allait dans le sens de ce qu'ils souhaitaient, et donc que ce n'était pas le moment de faire de l'obstruction. Donc ils feront une demi-obstruction, mais de toute façon, parmi tous ces amendements, tous ceux, ça c'est la Constitution, et énormément vont tomber dans ce piège-là, tous ceux qui impliquent une dépense supplémentaire ou une recette moindre sont immédiatement écartés. Et là, il va y en avoir beaucoup. Donc, il y aura finalement un nombre d'amendements gérables. Les amendements sont gérables. La question sera de savoir si les syndicats seront gérables et si les Français seront gérés.
On passe à la journée de mobilisation de mardi. Il y a plusieurs manières de manifester. Certains élus ont décidé de fermer leur mairie mardi prochain. Vous avez vu ça, Anne Hidalgo va le faire à Paris. Le maire communiste de Villejuif, Pierre Garzon, est dans la même démarche, qui a été critiqué ce matin par Olivier Dussopt, le ministre du Travail.
Ça me pose un problème plutôt moral ou politique. Toutes celles et ceux qui sont favorables à la réforme, toutes celles et ceux qui n'y sont pas opposés, vont être privés de l'accès à des services publics auxquels ils ont droit.
Cette mairie est fermée physiquement. Les grévistes sont en grève, ça c'est le droit constitutionnel. Les non-grévistes sont au travail. Ce que nous assurons pas, c'est l'accueil public. Les accueils d'enfants seront assurés, le centre municipal de santé sera assuré, etc. Et nous fermons symboliquement l'accueil des mairies pour dire stop, ça suffit. Donc on tient les deux bouts, la nécessité de continuité de services publics et de l'autre, l'engagement d'un maire au nom de sa population de dire cette réforme, nous n'en voulons pas.
Alors on est plus dans le symbole.
Non mais ce qui est un peu inédit quand même, et un peu ridicule aussi, mais en réalité, les mairies font du blocage là. Elles font du blocage, elles bloquent un service public.
Ça s'appelle.
Oui, elles bloquent un service public. Mais c'est pas différent de ce qui se passe chez les cheminots ou chez les gaziers. Simplement, habituellement, ça ne se passe pas, parce qu'on part du principe qu'une mairie, c'est le bien collectif de tous les Français, donc qu'on doit toujours pouvoir y avoir accès. Bon, franchement, ce n'est certainement pas ça qui fera la décision dans un sens ou dans un autre.
Donc ça ne sert à rien, quoi.
Absolument, sinon à prendre une posture.
Ouais.
C'est ce que fait Anne Hidalgo.
Par exemple.
Qui a répondu à un appel de Fabien Roussel. Hein. L'idée vient de lui au départ.
Et les syndicats se présentent encore sous un front uni, là, ce sera encore le cas mardi prochain. Ça peut durer, ça, Alain Duhamel ?
pendant une certaine période sûrement, dans la mesure où, jusqu'à présent, la CGT et Sud ont accepté l'idée de grèves ponctuelles. Alors, ils essayent de les compléter un peu, bien sûr, mais non renouvelables. Le moment là où ça commencera probablement à discuter sérieusement entre syndicats, c'est quand il sera question de lancer, ça viendra, hein, des grèves renouvelables. C'est-à-dire des grèves qui peuvent durer des semaines. Bon, et à ce moment-là, je pense qu'il y aura des comportements différents. Mais là aussi, pas tout de suite. Ça viendra progressivement.
Il n'y a pas que la réforme des retraites dans l'actualité. Il y a aussi, dans l'actualité politique, il y a aussi le congrès du PS qui s'est ouvert aujourd'hui à Marseille, qui va durer jusqu'à dimanche. On se souvient qu'Olivier Faure, le premier secrétaire sortant, et Nicolas Maillard-Rossignol, le maire de Rouen, continuent de se disputer la victoire. Anne Hidalgo s'est exprimée, parce qu'elle ne s'intéresse pas qu'à la réforme des retraites, s'est exprimée. Elle a une proposition pour mettre tout le monde d'accord.
C'est vraiment catastrophique, quoi. Et en plus, enfin, je suis choquée parce que on est beaucoup d'élus à organiser des élections. Une semaine après le vote, on est infoutu d'attester et les autoproclamations, ça marche pas. Moi, je dis direction collégiale ou revoter.
C'est aussi simple que ce que dit Anne Hidalgo ?
Non, c'est rarement aussi simple que ce qu'elle dit. Direction collective, une direction, ça doit avoir un leader. Mmh. Autrement, ce n'est pas une direction.
Une direction collégiale avec des gens qui s'entendent aussi
autrement,
mal.
Autrement, c'est un symposium. Oui. Ce n'est pas une direction. Bon, et est-ce qu'ils peuvent se mettre d'accord ? S'ils n'arrivent pas à trouver une solution, et déjà, faut se rappeler quand même, moi, dans cette histoire. Il y a... En 2012, c'est en gros il y a 10 ans, les socialistes avaient le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, la majorité à l'Assemblée nationale, pour la seule fois sous la Ve République, la majorité au Sénat, la majorité des conseils régionaux, la grande majorité des conseils départementaux et la majorité des municipalités. Ils avaient tout et ils ne sont plus rien. Alors je ne crois pas que ça sera... durablement possible, je pense qu'il y a une place pour la social-démocratie, il faudra la réinventer d'une façon ou d'une autre, et elle ressurgira. Mais arriver à passer d'un moment où on est tout à un moment où on est rien en 10 ans, c'est hallucinant.
C'est explicable ? Il y a un responsable ?
Non, il n'y a pas un responsable. Ce qui a été clair dès le début du quinquennat de François Hollande, puisque ça commence justement en 2012, c'était que chez les socialistes, il y avait deux sensibilités qui se refusaient à des compromis. Il y avait la sensibilité Hollande, social-démocrate classique, et puis il y avait une sensibilité beaucoup plus radicale qui existait, les frondeurs, mais qui quand même, massacré le quinquennat et de donner une démonstration d'opposition interne, c'est-à-dire le contraire de tout ce qu'il faut faire. Non, c'est, cette espèce d'autodestruction, ça ne peut pas être totalement conscient, mais ça prouve, ça prouve beaucoup de médiocrité quand même.
À gauche, dans cette gauche-là.
C'est cela.
Quoi qu'il arrive, un courant social-démocrate va survivre au centre-gauche, ça s'appellera autre chose.
Oui, il y aura quelque chose, ne serait-ce que parce que, après Emmanuel Macron, ce qui restera du macronisme sera plus à droite. Et donc, il y aura entre les insoumis, les écologistes, et d'un côté, et la droite, il y aura un espace. Encore faut-il capable de l'utiliser, de se structurer, d'avoir un leader qui ressemble à quelque chose. Il faut tout changer, quoi.
Bon, il faut faire table rase. Vous restez avec nous, Alain Duhamel, parce qu'on a d'autres sujets à vous soumettre, et notamment ce constat. Les Français sont les champions d'Europe de la consommation de cannabis malgré 50 années de politique répressive. Ce constat, c'est ce qui motive le Conseil économique, social et environnemental à se prononcer en faveur d'une légalisation encadrée du cannabis, un avis qui n'est que consultatif, mais qui a immédiatement rouvert un débat déjà ancien et toujours complexe.
Bientôt la légalisation du cannabis.
Et oui, faut-il légaliser le cannabis ?
Les experts du Conseil économique et social soutiennent à leur tour l'idée d'une légalisation.
Car malgré la mise en place d'un des systèmes de prohibition les plus répressifs d'Europe, 45% des 15-64 ans auraient déjà consommé du cannabis au moins une fois au cours de leur vie en France.
Sur ce plateau, nous sommes 4. Il y en a 2 ici qui l'ont donc déjà fait. Je ne les citerai pas pour
une moyenne.
Vous.
Il n'y a pas de drogue qui soit sans danger. La drogue, c'est de la merde. Que ce soit du cannabis, que ce soit de la coke.
On a un point de deal à un endroit. Si tant est qu'on réussisse à le démanteler.
Il se remonte à côté.
Et on se retrouve avec des gosses qui, à 10 ans, pour accéder à leur collège, sont obligés de fumer un joint. Et là, ça fait des ravages.
Le mieux, l'idéal, ce serait que personne se drogue.
Bonsoir Thierry Baudet, président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Bientôt légal, c'est ce que titrait Varmatin hier pour commenter votre avis. On n'en est pas là. Ce que vous souhaitez d'abord en préconisant la légalisation encadrée du cannabis, c'est provoquer un débat dépassionné sur cette question. Est-ce que c'est vraiment possible ?
C'est nécessaire pour les raisons que vous avez évoquées, parce qu'on a la législation la plus répressive d'Europe et la consommation la plus élevée, les champions de la répression, les champions de la consommation. Et puis nous, on a observé à l'occasion des dernières élections allemandes que dans le projet de coalition allemande, à l'horizon, la légalisation envisagée dès 2024 de la production, du commerce et de l'usage du cannabis. Donc on s'est dit que le débat allait de toute façon revenir en France, et comme on vient de le voir, un débat qui est tout de suite passionné, qui n'échappe pas au positionnement idéologique, comme s'il fallait renvoyer dos à dos d'un côté les partisans de l'ordre et de l'autre les partisans de la permissivité. C'est beaucoup plus complexe que ça en réalité.
Le constat, on l'a compris, la politique répressive ne fait pas ses preuves. Mais à l'inverse, êtes-vous sûr que la dépénalisation permette de réduire la consommation et notamment celle des jeunes ?
Alors, l'objectif qu'on se donne, c'est d'abord un objectif, j'allais dire, de santé publique. Et le cannabis est une drogue, la vie dit que c'est une drogue, et l'objectif, c'est bien d'assécher le trafic, de réduire les risques et de réduire la consommation. Il n'y a pas d'automaticité. La vie ne dit pas qu'une légalisation encadrée va de manière un peu magique assécher totalement le trafic. Mais pour assécher le trafic, la meilleure formule, c'est que les jeunes notamment ne consomment pas, donc il faut faire de la prévention. Aujourd'hui, on ne fait pas de prévention à la hauteur des enjeux. Il faut probablement cibler davantage la répression du trafic sur les publics les plus jeunes. Et puis, il faut aussi réfléchir à de l'économie de substitution, notamment pour nos quartiers.
Non, mais ce que vous envisagez, c'est que le cannabis soit disponible dans des points de vente. Alors, ce ne sera pas des magasins, mais ce seront des points de vente très encadrés, très contrôlés. Mais ça ne peut pas encourager les plus jeunes à fumer, le fait de pouvoir se fournir dans un point de vente qui a pignon sur rue. On sait que vous allez l'interdire aux mineurs, mais on sait à quel point c'est facile d'acheter des cigarettes ou de l'alcool quand on est mineur en France. Ouais,
mais nous pensons que, encore une fois, le statu quo est impossible. Vous savez, pour réaliser cet avis, on a rencontré plus de 70 personnes. On s'est déplacé sur le terrain. Toutes celles et ceux que nous avons rencontrés, policiers, magistrats, femmes et hommes politiques, élus locaux, enseignants, professionnels de santé, tout le monde nous dit que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai en tête le témoignage d'un policier qui nous disait « on a le sentiment de devoir vider la mer avec une petite cuillère trouée, avec un sentiment d'inutilité, un sentiment d'épuisement ». Et on pense que pour réduire les risques et réduire la consommation, il faut passer par l'encadrement. La légalisation encadrée que nous proposons n'est pas la libéralisation, c'est totalement différent.
C'est pas la fin de la répression.
Et non, on dit c'est une drogue. Et l'objectif, c'est de réduire la consommation. Et vous avez raison de parler de point de vente. On ne parle pas de boutique, on parle de point de vente dont il faudrait imaginer les contours, mais notamment avec une apparence assez neutre, avec un sas à l'entrée. On imagine un sas à l'entrée pour contrôler l'identité des personnes, des points de vente sous licence, où celui qui vendrait en quelque sorte le cannabis devrait être la première personne qui informe, qui fait de la prévention. C'est l'objectif que nous nous donnons. C'est vraiment un avis, j'allais dire, d'équilibre, et encore une fois, qui vise à réduire les risques face au cannabis.
Voilà, l'objectif, c'est la santé publique. Ce n'est pas du tout l'analyse de François Braun, le ministre de la Santé, qui s'exprime sur cette question. C'était pas hier, c'était en octobre 2022.
Je ne suis pas, à titre personnel, favorable à la légalisation du cannabis. On a maintenant du cannabis qui est modifié, qui est extrêmement concentré, qui est dangereux, qui s'apparente plus à des drogues dures qu'à des drogues des années 70.
Une drogue dure aujourd'hui, le cannabis.
Moi, je considère qu'il nous donne des arguments, finalement. Parce que le ministre a raison. Aujourd'hui, quand vous achetez du cannabis dans la rue, vous ne savez pas ce que vous achetez. Et nous, quand on propose notamment d'encadrer, y compris la production, on imagine naturellement un encadrement des surfaces, un encadrement des volumes à travers la traçabilité. On sait aussi ce que nous proposerions. Et on parle bien de cannabis, on parle bien de drogue, mais l'idée, c'est aussi à travers cet encadrement de proposer les produits les moins nocifs possibles. Je pense que, encore une fois, l'argument de M. Braun donne plutôt de la force à notre avis.
Je vous fais réagir dans un instant, Alain Duhamel. Juste un mot de Mohamed Edpierre.
Oui, en 2018, le Canada est devenu le deuxième pays du monde à légaliser le cannabis. C'est un modèle qui a inspiré le CESE, un modèle qui interdit la publicité et multiplie les messages de prévention, des spots aux messages forts. Regardez. Je reste le mec depuis les premiers tags à Grateful Park. Blacklist, les noms j'ai les guns. Prêt à tout pour ceux que j'aime, je rêve mon Reddington. Jumper dans mon backpack, Jeff est dans mon backpack. Lisa dans mon backpack, les canards mon fan. Straight, y'aura pas de sérénade. Moi nous, j'ai les sérénades. Vous avez expliqué il y a quelques secondes le manque de prévention en France concernant le cannabis, et notamment chez les jeunes. C'est les jeunes qui sont visés. Comment la mettre en place, cette prévention, et pourquoi on manque de prévention ?
Il faut des moyens pour mettre en œuvre de la prévention. Je pense que cette campagne de publicité, elle est précisément financée par probablement des taxes, les recettes liées à l'encadrement du cannabis. Dans notre pays, aujourd'hui, on n'a pas de campagne de cette nature. On n'a pas de programme de prévention à grande échelle. Je ne parle pas d'initiatives ponctuelles, mais nous n'avons pas de programme de prévention à grande échelle, par exemple, dans le milieu scolaire. Et encore une fois, en légalisant et en encadrant la vente, les produits, j'allais dire, issus de cette vente doivent servir notamment à de la prévention, à des grandes politiques de prévention. J'ajoute qu'une partie des produits devrait aller aussi en direction de la politique de la ville, parce que le sujet du cannabis, ça concerne M. Darmanin, ça concerne M. Braun, mais je considère aussi que ça concerne M. Klein. C'est aussi des sujets de politique publique, et il faut qu'on essaie d'avoir une vision 360 degrés de ce sujet.
On a entendu le ministre de la Santé. C'est un sujet sur lequel le président Macron n'a pas le même avis que celui qui était le sien lorsqu'il était ministre. On commence par le ministre.
Aujourd'hui, le cannabis pose un problème, en effet, de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue. Et à une forme d'efficacité.
Je ne suis pas favorable à la légalisation du cannabis, parce que je considère que les phénomènes de trafic auxquels nous sommes confrontés ne touchent pas que le cannabis, mais d'ailleurs sont en train de glisser sur d'autres formes de drogue, et que aujourd'hui c'est un modèle économique qui s'est développé dans beaucoup de quartiers, qui fait que si on légalisait, il se déplacerait vers d'autres formes de criminalité.
Vous pensez le convaincre de changer encore d'avis ?
J'observe que sur le sujet, on peut changer de point de vue. Et au CESE, il y a une quarantaine de membres qui ont travaillé sur ce sujet. Je peux vous assurer qu'il y a 10 mois, une très grande partie de ceux qui ont fait ce travail en profondeur, si on leur avait dit il y a 10 mois qu'ils se prononçaient pour une légalisation encadrée, ils vous auraient assuré du contraire. En fait, ce qu'on a fait, on s'est rendu compte assez rapidement, comme je l'ai dit, que le statu quo était impossible, et on a pris le risque d'aller au bout d'une proposition, ouais. Et vraiment, la position n'est pas unanime, mais une très grande majorité de celles et ceux qui ont fait ce parcours des 10 mois ont changé de point de vue pour un certain nombre d'entre eux, et en sont venus à la nécessité de cette légalisation encadrée.
Il faut sortir du statu quo, Alain Duhamel.
Oui, moi, je ne donne pas ma réponse, mais je veux poser une question. Parmi tous les gens que vous avez fait travailler et parmi tous les gens que vous avez reçus et consultés, est-ce qu'il y en a un seul qui a su vous expliquer pourquoi c'était en France, en Europe, qu'on consommait le plus de cannabis ?
Non, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. J'observe que nous avons assez proche de nous, je pense au Maroc, le premier producteur mondial de cannabis. On va avoir en 2024 notre plus grand partenaire, 80 millions d'habitants, qui aura encore une fois légalisé la production et l'usage du cannabis. Et je pense que la situation que vous décrivez ne peut, j'allais dire, que se conforter et s'amplifier. Donc on ne peut pas rester dans la situation actuelle.
Et alors, Alain?
C'est quelque chose un débat que j'entends depuis en gros les années 70. Hein, donc ça commence à faire un bout de temps. Et je suis quand même frappé par le fait que les Français fument plus de cannabis que les pays voisins. Peu importe, ce soit beaucoup plus, mais plus. De même qu'ils ont plus recours aux antidépresseurs. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une faiblesse psychologique collective ?
Quand je vous entends, vous évoquez souvent le malaise français, le pessimisme français. Je ne sais pas si, sais pas s'il y a un lien, mais toujours est-il qu'il faut prévenir et notamment il faut agir en direction des plus jeunes. Ouais. Parce qu'on sait que jusqu'à l'âge de 25 ans, le cerveau n'est pas totalement achevé et que les dommages sont très importants et il y a urgence à agir, notamment en direction des plus jeunes. C'est pour ça que je le précise dans les points de vente que vous avez évoqués tout à l'heure, hein, et qu'on propose, il ne serait ouvert naturellement qu'aux majeurs. Et toute la logique de la vie vise à empêcher, j'allais dire, la consommation chez les mineurs.
Deux petites remarques contradictoires. Vous y avez fait allusion tout à l'heure sur l'opinion des policiers. On ne mesure pas combien les policiers dépensent de l'énergie, du temps et donc de l'argent, des moyens à combattre ces trafics, ce qu'ils pourraient faire ailleurs, autrement, pour combattre de l'insécurité, etc. Et c'est très présent chez les policiers qui sont sur le terrain. Et deuxième remarque contradictoire, chez les gens chez ceux qui insistent le plus dans le débat public pour la lutte contre l'insécurité, ils sont les plus opposés à la légalisation du cannabis. C'est-à-dire que c'est un débat qui se prête souvent à des caricatures et à droite. Et aussi également à l'extrême droite, c'est un débat impossible et interdit. Et vous demandez à n'importe quel responsable politique de droite, il vous dira, il n'est pas question de céder au laxisme de ceux qui demandent la légalisation du cannabis. Et donc on a quelque chose qui est assez impossible et contradictoire.
Le mot de la fin, Alain Duhamel.
Si la prévention marche, c'est la meilleure nouvelle de l'année. Est-ce qu'elle marchera ? Pour ce que j'en sais, par exemple, il y a eu des efforts importants qui avaient été faits aussi en Hollande, aux Pays-Bas, et les résultats avaient été un peu décevants.
Et je pense que sur les sujets complexes méritent des débats approfondis, sereins et apaisés. Je crois que c'est un sujet qui concerne beaucoup de Français, on l'a dit, qui préoccupe beaucoup de parents. Et ça mérite vraiment, encore une fois, ça vaut beaucoup mieux que les caricatures qu'on entend parfois.
Merci Thierry Baudet, le président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. Vous nous parlez d'une expérimentation en Corrèze pour sauver des gares trop peu fréquentées.
Oui, voici la gare de Jasonnex en Corrèze. Depuis le 1er janvier 2023, les trains ne devaient plus s'y arrêter, comme plusieurs petites haltes ferroviaires du département. Elle est en effet concernée par un plan d'optimisation prévu par la SNCF et la région. Mais une initiative de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports a contrecarré ce plan avec une proposition d'arrêt de train à la demande. Voici comment ça fonctionne. Le train entre en gare à vitesse réduite et il va s'arrêter si et seulement si un voyageur fait signe au conducteur depuis le quai pour monter à bord. Si vous êtes à bord du train et que vous souhaitez descendre, c'est tout aussi simple. Il suffit de prévenir le conducteur du train ou le contrôleur pour déclencher l'arrêt. Une initiative censée permettre aux habitants des bourgades de continuer à exister sur la carte du réseau SNCF et donc de lutter contre les difficultés à se déplacer dans les territoires isolés, déjà dénoncés par les Gilets jaunes à l'époque en Corrèze.
Nous, on a écouté le message des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils ont bien compris que de toute façon, il fallait aller travailler dans les grandes villes. C'est là où il y a le travail. Mais ils voulaient continuer à habiter dans les petites communes, hein, parce que c'est vraiment des tout petits villages là qui sont desservis. Et donc, cette pratique existait. Pourquoi ne pas l'utiliser ? Et c'était quelque chose qui avait été un peu oublié, parce que vous savez, on rationalise, on rationalise, on rationalise. Et il arrive au moment, on oublie de répondre aux besoins des usagers. Et puis à zéro coût pour la SNCF et à zéro coût pour la région. Il faut que la population y reste, il faut qu'il y ait des enfants, il faut garder l'école, il faut garder les commerces et il faut garder l'arrêt du train.
Depuis le mois de décembre, l'expérimentation est menée dans le nord de la Corrèze, dans les gares de Jassonnex, Meymac, de Montagnac-sur-Doustre et de Pérols-sur-Vézère. Ce sont environ 12 personnes chaque jour qui sont concernées dans chaque gare. On a demandé au maire de Meymac quels étaient les profils des utilisateurs de ces TER.
Tout d'abord les étudiants qui vont le lundi ou le vendredi à Limoges. Toutes les personnes qui peuvent faire un rendez-vous médical, que ce soit au centre hospitalier universitaire de Limoges ou d'autres rendez-vous, que ce soit économiques ou médicaux.
Côté utilisateur, j'en ai eu quelques-uns au téléphone aujourd'hui. Vous imaginez bien que l'expérience est une réussite. Du côté de la mairie, on est ravis de voir que la petite gare ne va pas disparaître.
Lorsqu'il n'y a pas une fréquentation régulière, la SNCF a tendance, et la région, ont tendance à fermer ces arrêts ou ces gares. Donc, à partir du moment où on a une demande comme ça qui est ponctuelle et qu'on peut répondre à cette demande ponctuelle, c'est une solution simple et adaptée à la fois pour la clientèle et à la fois pour la SNCF.
Cette expérimentation se déroulera jusqu'à la fin de l'année. La région Nouvelle-Aquitaine envisage de l'étendre à d'autres territoires en cas de succès. Alain Duhamel, le président de la Fédération des usagers de transport de la Nouvelle-Aquitaine, l'évoquait. La fracture territoriale dont on a tant parlé au moment des Gilets jaunes, ça reste un problème qui n'est pas réglé pour de nombreux Français, comme on vient de le voir.
Mais ça, c'est certain. Et c'est vrai que le fait que des lignes étaient interrompues, que des gares étaient désaffectées dans des bourgs que je connais bien, c'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment bien remplacé. Et donc, oui, les expérimentations sont toujours intéressantes. Simplement pour qu'elles ne soient pas seulement expérimentales ou ponctuelles dans des endroits très limités, il y aura forcément un problème de régulation. Parce qu'un train, d'abord, ne pourra pas aller très vite, puisqu'il est censé pouvoir s'arrêter si on l'appelle. Donc, par principe, il sera lent. Et d'autre part, selon qu'il s'arrête dans trois gares ou dans aucune gare, il ne mettra pas le même temps pour, oui. Pour la même durée. Je souhaite que ça marche. Je pense que ça peut marcher de façon expérimentale sur des territoires limités. L'étendre, ça pose un problème forcément de régulation des trains qui sera compliqué. Mais je ne suis pas président de la SNCF.
Alors qu'on a un président du Conseil économique, social et environnemental, qu'en pensez-vous ?
La question de l'accès aux services publics, c'est un sujet majeur. Le sentiment de désertification, d'abandon d'un certain nombre de territoires, c'est vraiment une question qui est très, très présente. Et même si les sujets sont très différents, il y a vraiment un sentiment d'abandon. On pourrait parler de sujets un peu différents, comme les déserts médicaux, par exemple. Mais je pense que tout ça se renforce et crée de grandes inégalités entre nos territoires.
D'autres sujets à vous soumettre dans le 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir à toutes et à tous.
Mathieu, quand la révolte iranienne s'exporte symboliquement sur le sol français.
Oui, je vous emmène à Naufle-le-Château. À peine plus de 3000 habitants, on est en région parisienne, dans les Yvelines, à 40 km à l'ouest de la capitale. Naufle-le-Château, c'est la ville qui a accueilli l'ayatollah Khomeini, où il a vécu en 1978, juste avant de revenir à Téhéran, le 1er février 1979, pour proclamer la République islamique d'Iran. Sauf que depuis, c'est devenu un lieu de pèlerinage pour certains, pour des chiites iraniens de passage notamment. Et à Naufle-le-Château trônait même un panneau, une affiche avec le portrait du guide suprême, notamment un hommage, en réalité un hommage qui gêne particulièrement en ce moment alors que le régime réprime les révoltes dans la plus grande violence en Iran, sauf que le panneau est sur une propriété privée.
La commune, elle n'a pas eu son mot à dire, ça lui a été imposé, c'est arrivé comme ça, ça a été brutal, elle a fait du mieux qu'elle a pu, il y a eu des moments très très compliqués.
Des Iraniens, franco-iraniens ou des Français d'origine iranienne sont venus sur les lieux ces dernières semaines, sur place, manifester, protester contre l'hommage rendu ainsi à l'oppresseur sur le sol français.
Les bras nous en tombent de savoir qu'un tel panneau existe en France, en contradiction totale avec nos valeurs républicaines, et qu'il a été instauré en 2017, c'est-à-dire à une période où on savait très bien, si vous voulez, quels avaient été tous les crimes de la République islamique.
Imaginez que votre voisin vous colle une photo d'Hitler en 4x3 dans son jardin. Je pense qu'il ne faudrait pas 24 heures pour qu'on vienne la retirer.
Devant l'impasse pour la mairie, malgré le grillage sur la route, ce qui devait arriver arriva. Regardez cette vidéo qui date de mardi. Le panneau détruit, plus d'hommage à l'ayatollah à Neufle-le-Château, mais désormais un drapeau à la place. Alors l'homme qui a détruit le portrait de l'ayatollah a remplacé le panneau par un drapeau iranien, pas le drapeau actuel, mais le drapeau pré-révolution, le drapeau avec le lion qui était celui du pays avant la révolution islamique.
Pardon, excusez-moi. Le groupe LVMH affiche des résultats records.
Oui, près de 80 milliards d'euros de ventes en 2022, c'est le chiffre d'affaires du groupe dans lequel on liste Louis Vuitton, Dior, Guerlain, Tiffany, entre autres, des alcools bien sûr, des résultats records. C'est Bernard Arnault qui le dit, pardon, l'homme le plus riche du monde, qui annonce une activité en hausse de 23% pour un résultat net, un bénéfice qui dépasse les 14 milliards d'euros. LVMH séduit de plus en plus de clients qui payent plus cher l'entreprise, qui profite aussi ainsi d'une parité euro-dollar intéressante sur l'année écoulée. Et dans ce contexte intéressant pour le marché du luxe, qui se porte bien, c'était la Fashion Week haute couture à Paris cette semaine. Et nous avons choisi de suivre le défilé Mugler hier soir, dont vous allez voir des images sur vos écrans. Audrey Payas et Anaïs Roucouli ont pu interroger Kazé Cadwalader, le directeur artistique de Mugler. C'était leur premier défilé depuis la pandémie, depuis 3 ans, mais aussi le premier défilé depuis la mort du créateur Thierry Mugler, il y a 1 an.
Everything I do is in tribute to him, and especially now, I feel a lot more responsibility. I feel it on my shoulders, and I want to make him proud, and I think that it was just really important to make it different. I also wanted everyone to have fun, because fashion should be fun. It shouldn't be cold.
Évidemment, les défilés haute couture sont également l'occasion de croiser des personnalités, des people, de leur tendre un micro au premier rang, et on commence rien que ça avec Kylie Minogue.
What does Mugler represent to you? Well, I remember Mugler from the old days. Strong looks, independent feeling.
I mean, obviously always drama. There's always been drama, but now it's like drama and like bitchy. I'm expecting choreo.
Un décalage, on est quand même en France en ce moment dans un contexte un peu spécial d'inflation, de crise énergétique, la guerre en Ukraine.
Je pense que c'est ce qui aide aussi les gens à un peu voir autre chose, à rêver peut-être.
I think that no matter what, people need to dream and people need to be excited and you can also be concerned.
Alors après, c'est toujours des grands débats et c'est des débats qu'on aura toujours, peu importe s'il y a de l'inflation ou non, il y a toujours des gens qui ne vivent pas du tout ce que tous les gens qui vivent ici vivent.
Alors comme le disait l'humoriste Farid, c'est sûr qu'on peut toujours jouer le contraste entre la Fashion Week et la situation économique. Et pourtant, politique et mode n'ont jamais été aussi proches que ces derniers mois. On a parlé économie d'énergie beaucoup ces derniers temps. On nous a dit de baisser le chauffage. On a pu railler cette arrivée, les cols roulés de Bruno Le Maire ou les doudounes d'Elisabeth Borne. Alors Audrey Payas et Anaïs Roucouli ont sondé les jeunes fans de mode qui étaient présents afin de voir s'ils valident les looks de nos élus.
Madame Borne, bah, c'est pas mal, hein.
Ouais,
pour une politique, c'est pas mal.
C'est ça, ça va.
Et ça va bien avec ses yeux.
La veste, je sais pas, j'aime pas trop.
Elisabeth Borne, un peu de motif, on aime.
Ça fait un peu mamie.
Bah, je trouve les motifs et les dégradés.
Voilà. Oui, voilà, les dégradés, c'est bien.
En plus, ça va bien avec ses yeux, je trouve.
Ouais, vraiment.
Ouais. La doudoune validée.
Validée.
Bruno Le Maire est très simple.
Col roulé noir, une belle montre apparente, pour le coup.
On voit direct le contraste entre les deux. Une qui veut vraiment peut-être proposer quelque chose d'audacieux. Et une autre personne qui veut rester classe, élégante.
Bah, col roulé basique noir, ça va à tout le monde, on aime. Hein. Ouais. Il n'y a pas de souci.
Les JO de Paris, vous en parliez tout à l'heure, Alain Duhamel. On n'y est pas encore, mais ils sont déjà dans l'esprit de Gérald Darmanin.
Le ministre de l'Intérieur qui présentait ses vœux cette semaine, Place Beauvau, ministère de l'Intérieur. Clairement, Gérald Darmanin s'en venir une année chargée. Et comment dire, j'ai déjà entendu des vœux plus enthousiastes.
Une très bonne année 2023 pour vous, pour votre famille. Et bien évidemment, nous souhaitons, nous l'avons déjà dit, une mauvaise année pour les délinquants. Coupe du monde de rugby en septembre. Et puis, comme on s'est dit que l'année n'était pas, serait trop simple, Sa Sainteté le Pape a annoncé sa venue à Marseille, ville accueillante. Je crois que le président de la République a prévu d'inviter une grande partie de la scène mondiale à venir en Normandie. Je lui ai proposé Tourcoing, mais il m'a fait remarquer que le débarquement a eu lieu en Normandie, donc j'ai entendu l'argument. Les Jeux Olympiques à Paris, c'est une fois par siècle. Il faut que ça tombe sur nous. Une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade, ça n'arrive une fois que tous les 3500 ans, puisque ça n'est jamais arrivé. Et donc, cher Laurent Nunez, je suis très heureux avec toi.
Oui, c'est pas le plus grand optimisme de la part de Gérald Darmanin.
Non, mais enfin, c'est aussi une façon de montrer que la difficulté est immense et s'y sentir bien, de dire, voyez comme je suis formidable.
Et puisqu'on évoque le chantier des JO, un autre chantier sportif.
Ah, celui du campus PSG, futur centre d'entraînement des joueurs parisiens. Et permettez-moi de chausser ce casque de chantier, Babette. C'est pas un hommage à Mourouzi, quoique.
Ah.
Mais à Kylian Mbappé, je vais vous montrer les immenses stars du PSG comme vous ne les avez jamais vus. Kylian Mbappé perdu sur les travaux. La belle photo de classe de ces millionnaires du foot également. Regardez en tenue de chantier. De bons élèves ici dans les Yvelines. Des images qui ont beaucoup amusé en fait les internautes sur Twitter. Mais celui qui a le plus fait rire, c'est sans doute Léo Messi, qui a l'air tellement perdu sur ce chantier. Il y a moins d'un mois et demi, il soulevait la Coupe du Monde au Qatar, au soleil, et le voilà sur un chantier des Yvelines. Le regard un peu dans le vague, disons.
Oui, on a vu aussi d'autres responsables politiques avec des charlottes et des casques de chantier. Moi, c'est jamais facile. Oui, vous en sortez très bien. Juste, je voulais évoquer avec vous, Alain Duhamel, cet événement qui fait polémique. Deux jours avant la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, un déjeuner a été organisé dans le plus grand secret à l'Élysée avec une dizaine d'éditorialistes qui ont pu échanger avec Emmanuel Macron. Au cours de ce déjeuner, des éléments de langage ont été distillés, mais tout était off. Et aujourd'hui, ça interroge, ça fait polémique et on repose l'éternelle question de la collusion. Parmi ces journalistes, il y a Benjamin Duhamel qui est également journaliste politique sur BFM TV. Ça lui est reproché. Qu'en pensez-vous ?
Bon, je ne sais pas pourquoi on lui reproche plus à lui qu'à ceux qui étaient là, mais de toute façon, le fait de rencontrer des responsables, quels qu'ils soient, le président, mais aussi bien Jean-Luc Mélenchon ou n'importe qui, en pensant y trouver des informations, et de préférence, quand on est journaliste, d'essayer de trouver les informations avant les événements, et de préférence aussi peut-être avant ses collègues, moi, ça me paraît plutôt quelque chose d'intelligent. Alors, évidemment, il ne faut pas que ça soit présenté comme des arguments à donner.
Utiliser tel quel, quoi.
Non, oui. mais surtout, il ne s'agit pas que ce soit des éléments de langage à distribuer. Ça, pas du tout, mais que ce soit des informations à pouvoir utiliser. Je veux dire, il y a toujours eu ça. Moi, j'ai toujours pensé qu'on gagnait à rencontrer les hommes politiques de toute tendance, que c'était bien. On peut dire que c'est off, mais off, c'est de la blague. C'est jamais off. On dit que c'était en secret. Moi, je le savais avant, et pas par mon neveu. Mais je le savais avant, comme beaucoup de gens le savaient avant. Et dès que c'est sorti, on a su ce qui était dit dedans. Et ça n'a pas été, à ma connaissance, repris comme des éléments de langage. Ça a été repris comme des informations qu'on utilise. Qu'on utilise des informations qu'on peut utiliser de façon parfaitement critique. Et si elle vous intéresse pas et si elle vous plaise pas, on peut aussi ne pas les utiliser. Je veux dire, ça existe depuis. Le seul qui a jamais voulu, c'était le général de Gaulle, parce que il méprisait tellement les journalistes qu'il ne voulait même pas les voir.
Ah donc c'était réglé.
Alors, ça a un peu changé.
Merci beaucoup Alain Duhamel, qu'on retrouve sur BFM TV du lundi au jeudi et de temps en temps le vendredi dans C'est à vous. Merci beaucoup Thierry Baudel, président du CESE. Dans un instant, toute la troupe d'Astérix, le clin d'œil de Pierre, le vu et les actualités de Bertrand. A tout de suite pour le dîner de C'est à vous. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous, et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.